Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Le concile de Constantinople et son symbole, fin, la question du filioque. Nous avons parcouru précédemment les quatre premières affirmations du concile de Constantinople à propos de l'Esprit-Saint. Il nous reste aujourd'hui à examiner les deux dernières, puis nous arrêter ensuite sur le grand malentendu entre l'Orient et l'Occident, la douloureuse question du filioque. Cinquième affirmation donc, avec le Père et le Fils, l'Esprit-Saint est co-adoré et co-glorifié. Telle est la cinquième affirmation traduite dans le texte liturgique par « Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ». Remarquons que cette traduction liturgique est assez approximative. Il est vrai que si l'on disait que l'Esprit est co-adoré et co-glorifié, on aurait peut-être l'impression de faire violence à notre langue puisque ces verbes n'existent pas. Mais la traduction en vigueur laisse dans l'ombre quelque chose de très important. Le texte original ne dit pas que nous accordons à l'Esprit une adoration semblable ou identique à celle que nous accordons au Père et au Fils. Il dit que c'est dans une même adoration que nous adorons les trois personnes. Autrement dit, l'adoration de l'Esprit ne vient pas s'ajouter à celle du Père et du Fils, elle vient bien plutôt s'y inclure. Comme le dit saint Basile, nous adorons le Père avec le Fils et avec l'Esprit-Saint, et pas seulement le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. C'est juste une nuance, me direz-vous, certes, mais c'est une nuance qui souligne le caractère trinitaire de notre adoration. Nous n'adorons pas les trois personnes séparément ou successivement, nous les adorons ensemble et inséparablement. Le plus intéressant dans l'argument de l'adoration et de la glorification, c'est qu'il s'agit d'un argument liturgique. C'est comme si les pères de Constantinople avaient dit aux autres chrétiens « Vous voyez bien que quand vous adorez Dieu, vous incluez dans votre adoration l'Esprit aussi bien que le Père et le Fils. Alors, comment pouvez-vous dire ensuite que l'Esprit est moins Dieu que les deux premiers ?» Un vieil adage latin que j'ai déjà cité déclare « La règle de la prière, c'est la règle de la foi. Nous prions comme nous croyons et nous croyons comme nous prions. Si donc nous adorons et glorifions l'Esprit, ou plus exactement, si nous l'incluons dans l'adoration du Dieu unique, c'est que nous exprimons dans notre prière notre foi en sa divinité. » Sixième argument, il a parlé par les prophètes. Déjà, saint Athanase, devant les premières remises en question de la divinité de l'Esprit, avait écrit ceci : « L'Esprit est inséparable du Fils, car lorsque la parole était dite au prophète, le prophète parlait dans l'Esprit ce qu'il recevait du Verbe. » Cette réflexion « le prophète parlait dans l'Esprit ce qu'il recevait du Verbe » répond à l'objection qui consisterait à dire « c'est le Verbe et non pas l'Esprit qui a parlé par les prophètes ». Il est exact que c'est le Verbe, mais si les prophètes ont pu exprimer la parole de Dieu, c'est dans l'Esprit qu'ils ont été rendus capables de le faire. Voilà pourquoi, sans nier que la parole de Dieu soit le Verbe ou le Fils, on dit que c'est dans l'Esprit que les prophètes ont exprimé cette parole, en hommes inspirés qu'ils étaient, comme nous le disons justement. Ainsi, c'est de la part active que l'Esprit a prise avec le Verbe dans l'inspiration des prophètes que l'on conclut à sa divinité. En concluant ce parcours, remarque un historien des conciles, nous remarquons que, je cite, « le symbole de Constantinople n'a pas voulu et ne s'est pas senti obligé d'employer des formules aussi décisives que « il est Dieu » ou « il est consubstantiel au Père et au Fils ». À l'origine de cette discrétion, il y a une volonté de pacification pour éviter les polémiques que des termes comme « consubstantiel » avaient suscité après Nicée. Il ne faut adopter un langage étranger à l'Écriture que lorsque c'est nécessaire. À cet égard, le concile de Constantinople est un plaidoyer remarquable en faveur de la sobriété du langage théologique. Il s'est pourtant produit plus tard un manquement de taille à cette sobriété avec l'ajout au texte du symbole de l'expression « et du Fils » pour exprimer la procession de l'Esprit. Comme nous l'avons vu, le texte de Constantinople s'en tenait à dire de l'Esprit-Saint qu'il procède du Père. Pourtant, quand nous récitons ce même texte, nous ajoutons « et du Fils », le fameux filioque. Et les fidèles de l'orthodoxie nous le reprochent avec force. Pourquoi et comment en est-on arrivé à cette pomme de discorde? L'inventeur du filioque est un théologien occidental et un des plus grands, saint Augustin en personne. Il est né en 354 et il a été baptisé en 387. Quand il devient chrétien, l'arianisme est donc vaincu et la foi trinitaire est reconnue définitivement comme foi catholique. Mais la tâche reste entière d'en rendre compte théologiquement, et c'est à ce travail qu'il va s'atteler dans un grand traité sur la Trinité qu'il occupera pendant 16 ans. La théologie de l'Esprit-Saint chez saint Augustin est magnifique. Un des textes qu'il préfère et qu'il cite un très grand nombre de fois est celui de saint Paul dans l'Épître aux Romains, Romains 5:5, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. » Dans cette phrase, saint Augustin voit que l'Esprit est le don de Dieu, don commun du Père et du Fils. C'est d'ailleurs de cette phrase qu'est tirée la formule du sacrement de confirmation. « Soit marqué de l'Esprit-Saint le don de Dieu, dit l'évêque, en faisant l'onction du Saint-Crème. » Le Père et le Fils donnent ensemble l'Esprit-Saint, comme l'a promis Jésus à ses apôtres, « le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père », Jean 15, 26. C'est pour cette raison qu'il faut d'abord que Jésus s'en aille, car dit-il, « si je ne pars pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai », Jean 16, 7. Mais puisque le Père et le Fils le donnent ensemble, n'est-ce pas que dans la vie divine, ils sont ensemble son origine? C'est cette découverte qui permet de sortir du faux dilemme dans lequel les Ariens essayaient d'enfermer les catholiques. Soit l'Esprit est engendré, disait-il, soit il est créé. S'il était engendré, il serait un second fils, donc il est créé. Le Concile de Constantinople avait tranché la question en disant « L'Esprit-Saint n'est pas créé, il est Seigneur avec le Père et le Fils ». Mais c'est saint Augustin qui donne l'explication théologique en disant « Si l'Esprit n'est pas un second fils, c'est parce que, de même que le Fils joue un rôle dans l'envoi de l'Esprit, dans le monde, il joue aussi un rôle dans la procession de l'Esprit, dans la vie trinitaire. » C'est l'origine du filioque. L'Esprit procède du Père, mais par le Fils, ou encore du Père et du Fils. Et la preuve en est que dans l'histoire du salut, ce sont le Père et le Fils qui envoient ensemble l'Esprit. Mais saint Augustin ne s'en tient pas là. Il rappelle avec insistance que cette faculté de donner l'Esprit, le Fils la tient entièrement du Père, qui lui donne tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Le texte décisif ici est Jean 16, 14, 15, où Jésus dit bien à propos de l'Esprit, je cite, « C'est de mon bien qu'il recevra », mais en précisant aussitôt « Tout ce qu'a le Père est à moi ». Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit. Parce que le Père donne tout au Fils, tout ce qui est à moi est à toi, il lui donne aussi la faculté de spirer l'Esprit avec lui. Spirer, c'est le mot technique. Puisque tout vient ultimement du Père, il ne suffit donc pas de dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme si le Père et le Fils étaient deux principes équivalents. Il faut ajouter qu'il procède avant tout du Père, car dans la Trinité, c'est le Père seul qui est l'origine sans origine des deux autres personnes. C'est pourquoi saint Augustin ne dit pas simplement que l'Esprit procède du Père et du Fils, il ajoute « mais du Père comme unique principe », en latin « principaliter ». Si l'on voulait traduire ce mot dans le credo, il faudrait dire quelque chose comme « je crois en l'Esprit-Saint qui, virgule, issu du Père, virgule, procède du Père et du Fils ». Voilà pour l'essentiel le raisonnement de saint Augustin. Un raisonnement stimulé par l'imprécision du mot latin « procéder » qui appelle des explications dont le mot grec correspondant n'a vraiment pas besoin. On aurait pu en rester là, d'autant qu'on trouve aussi dans la tradition orientale des raisonnements équivalents, malgré certains qui, dans un but polémique, ont voulu plus tard faire dire que l'Esprit procédait du Père seul, ce qui est évidemment faux. Ce qui mettra le feu aux poudres entre l'Occident et l'Orient, c'est l'oubli que le Père est l'unique source des deux autres personnes, et plus encore, c'est l'introduction du filioque dans le texte du symbole. On avait dit au Concile de Constantinople que jamais, au grand jamais, on ne modifierait quoi que ce soit au texte de Constantinople. Et voilà que les Latins se sont permis de modifier un texte intangible en y introduisant en force un mot supplémentaire. Les églises orthodoxes y voient une falsification inadmissible d'un concile écuménique. Le filioque apparaît dans la liturgie en Espagne, puis à la cour de Charlemagne à la fin du 8e siècle. Et comme la méconnaissance entre Orient et Occident ne fait que croître à cette époque, les Latins commencent à accuser les Orientaux de l'avoir supprimé du symbole, ce qui est vraiment un comble. Mais à Rome, les papes continuent de résister à cette innovation. L'un d'entre eux va même jusqu'à faire suspendre à l'autel de la Confession, dans la basilique Saint-Pierre, deux grandes tablettes d'argent qui portent le texte du symbole, en latin et en grec, sans le filioque. Les choses en resteront là jusqu'au terrible XIe siècle, qui verra en 1054 les anathèmes réciproques entre Rome et Constantinople, des anathèmes à la vie dure, puisqu'ils ne seront levés qu'en 1965 par Saint Paul VI et le patriarche Athénagoras. Depuis lors, un texte très important demandé par Saint Jean-Paul II, la clarification sur la procession du Saint-Esprit, a définitivement dissipé le malentendu théologique. Mais l'Église est comme une famille. Quand on a débattu à fond des difficultés avec tous les arguments rationnels, il reste à cicatriser les blessures qui ont atteint les personnes. Nous n'y sommes pas encore, et cela demande beaucoup de temps, de patience et de prière. Que l'esprit de vérité et de charité nous y aide.